Bonsoir à tous, bienvenue dans ce carnet nomade, aujourd'hui exil, avant-après. Colette Fellous à la réalisation, Vincent Deck. Exil, avant-après. Un carnet nomade qui accueillera aujourd'hui Paula Jacques et son nouveau roman, Au moins il ne pleut pas, qui s'ouvre sur l'hiver 1959 au port de Haïfa avec deux adolescents, un frère et une sœur, Soli et Lola, deux orphelins qui ont dû quitter précipitamment l'Égypte et qui se sont embarqués vers leur destin après l'exil donc. Un carnet qui accueillera également Élise Pestre pour son livre La vie psychique des réfugiés, Élise Pestre qui est psychanalyste, et Benjamin Stora avec son essai récit Les clés retrouvées, avec comme sous-titre Une enfance juive à Constantine. C'est un livre qui retrace son propre trajet de sa vie d'enfance à Constantine qu'il a dû quitter à 12 ans en 1962 jusqu'à sa nouvelle vie en France où, comme tant d'autres exilés, il a dû se reconstruire. Exilés, migrants, réfugiés, déplacés, expulsés, de nombreux mots pour un seul acte, celui de quitter son lieu natal. Pour des raisons politiques, des raisons historiques, presque toujours violentes, quitter un pays pour en rejoindre un autre, coûte que coûte, un pays tout à fait nouveau, porteur d'espoir et de liberté. Et dans la violence du départ, on emporte avec soi sa mémoire avant tout, mais aussi en vrac des chansons, des goûts, des parfums, des blessures, des joies. On emporte de l'invisible qu'on garde blotti au fond de soi, pour ne jamais le perdre. Et on avance comme ça, dans d'autres villes, d'autres langues, d'autres codes. On apprend de nouveaux gestes et de nouvelles géographies. On avance encore comme ça, à la fois en oubliant et en se souvenant. L'exil est parfois un art, mais le plus souvent, il reste une douleur cachée, en silence, comme un secret, comme une pudeur, ou comme des larmes qu'on passe une vie parfois à retenir. Des larmes contenues aussi dans toutes les chansons d'exil.
Μοιράζουνε ματιές μες στο Σεργιάνι. Στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, παίζουν με τα όνειρα πριν βάλουνε στεφάνι.
Voici la première page du livre de Benjamin Stora. C'était le 20 août 1955, j'avais 4 ans et demi. Il faisait très chaud ce jour-là dans notre petit appartement de Constantine, situé en face des gorges du Rommel. Et puis brusquement, des soldats sont entrés. Ils ont ouvert la fenêtre, installé une sorte de trépied et posé une mitrailleuse dessus. Ils ont tiré. Le bruit était épouvantable, les douilles sautaient et une odeur âcre a envahi ma petite chambre. Sur qui, sur quoi tiraient-ils? Les soldats formaient une masse grise et floue. Je me souviens surtout de ma terreur au moment de leur entrée dans la pièce. Cet événement me mit pour la première fois en présence de la mort. L'exil, exil, avant-après, Benjamin Stora, avec vous, donc pour votre livre, un essai, un récit, un travail à la fois d'historien et de romancier, on peut dire. Avec ce titre, Les clés retrouvées, on pourrait commencer par la fin de votre livre, où vous éclairez justement ce titre. Et puis la fin d'un livre, c'est aussi le commencement d'un livre, si on suit la théorie de Proust. Et donc peut-être que vous pourriez nous dire pourquoi ces clés retrouvées, c'est quelque chose qui arrive au bout du livre et qui est vraiment une histoire très, très poignante.
Effectivement, c'est une forme de mystère, ce titre, Les clés retrouvées. C'est lorsque ma mère est décédée en 2000. Vous savez que lorsque les parents décèdent, on est malheureusement obligé, c'est une entreprise extrêmement difficile et douloureuse, de vider les appartements. Et donc on est amené à découvrir des documents, des photographies, des lettres. Bref, toute une vie à la fois, disons, poignante, émouvante, mais chaleureuse, mais aussi des parts d'ombre. Et dans la table de nuit qui était à côté du lit de ma mère, eh bien, il y avait des clés. Alors beaucoup de clés. Mais il y avait une paire de clés, et cette paire de clés, en fait, elle renvoyait tout simplement à l'appartement que nous avions quitté à Constantine, en 1962, qu'elle avait gardé. Donc c'était ce trousseau de clés, vous savez, qu'on garde très souvent. Et cela m'a fait penser à ces clés que des marins d'Espagne avaient conservées au moment de leur départ, de ces juifs exilés qui étaient sur les chemins de l'errance, mais avec des trousseaux de clés qui signifiaient et qui marquaient à chaque fois les lieux, les demeures, les habitations où ils avaient habité, qu'ils avaient traversé.
Oui, et pour vous, c'est aussi un objet, un héritage, en fait, hein, puisque vous avez écrit ce livre presque avec ce motif, hein, des clés retrouvées, comme si vous retrouviez aussi votre propre mémoire qui était enfouie, qui avait peut-être plusieurs interprétations suivant la période de votre vie, et on n'en finit pas, hein, de retourner vers sa mémoire et ses instants passés en leur donnant à chaque fois un éclairage nouveau. Dans ce livre, c'est très beau parce que vous revenez sur plusieurs dates, hein. Une des dates clés, c'est celle du 16 juin 62, où vous avez quitté l'Algérie. Mmh. Mais le livre s'ouvre sur une date qui est le 20 août 55, où pour la première fois, vous avez compris quelque chose de la mort, de la peur, de la guerre, quelque chose qui est entré, hein, en fait, dans votre corps d'enfant.
Oui, alors ce livre s'ouvre effectivement sur cette date du 20 août 55. C'était le moment d'un soulèvement en Algérie. Il y a des Algériens donc qui ont tenté de rentrer, disons, dans la ville de Constantine pour livrer bataille contre les Français. Et longtemps, ce souvenir m'avait été, enfin, je me l'étais dissimulé. En fait, ce souvenir est revenu progressivement, récemment, puisqu'il s'agissait de l'entrée brusque dans mon appartement, le petit appartement qu'on occupait à Constantine, en face des gorges du Rumel. Les gorges du Rumel, vous savez, Constantine est une ville très très spéciale, très particulière, qui est entourée de gorges, donc de ponts.
Oui, et elle est construite sur un rocher.
Sur un rocher gigantesque à 600 mètres d'altitude. Et donc, les fenêtres de ce petit appartement donnaient sur les gorges du Rumel, et des soldats français sont entrés donc brutalement, brusquement dans notre appartement, et ont installé en fait une sorte de mitrailleuse, je pense, dans mon esprit, qui faisait un bruit absolument épouvantable. Ils se sont mis à tirer sur les gorges du Rumel. Donc il y avait à la fois ce bruit terrible. Longtemps, j'ai cru que ça me renvoyait, par exemple, à des films de guerre, d'images, etc. Mais en fait, c'était véritablement ma propre mémoire. Puis aussi l'odeur de la poudre qui a envahi instantanément l'ensemble de ce petit appartement. Donc voilà, ça, c'est le premier souvenir. J'avais 5 ans, en fait. Et c'est en fait le premier souvenir de ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, en fait, qui brusquement faisait irruption dans ma vie d'enfant en 1955, donc à l'âge de 5 ans. Et donc il y a effectivement ce croisement des souvenirs entre, disons, la grande histoire, avec la petite histoire de la vie quotidienne, de ce quartier juif dans lequel je suis né, le Charah, c'est-à-dire le quartier juif profond, hein, de Constantine. Moi, je suis né rue Grand. C'était un quartier judéo-musulman, un quartier juif. On vivait aussi des familles musulmanes. Une sorte, disons, de, entre guillemets, bien sûr, de Médina, avec beaucoup de ruelles, beaucoup de petites rues, etc. Et j'ai passé, par conséquent, toute mon enfance dans ce quartier, à la fois dans les ruelles plutôt, et puis ensuite, progressivement, à l'intérieur des maisons. La guerre faisait que nous n'avions plus accès à la rue. Nous nous sommes repliés à l'intérieur des maisons, les enfants en particulier, d'où, disons, cette acuité très particulière que portait sur la vie à l'intérieur de l'espace privé, où dominaient bien sûr les femmes qui ont joué un si grand rôle dans ma vie d'enfant.
Et vous parliez aussi l'arabe ?
Alors là, il y a une particularité de la communauté juive de Constantine, à la différence par exemple de celle d'Alger ou d'Oran, c'est le maintien de la langue arabe dans l'espace privé. Ma mère en particulier parlait l'arabe couramment, bien sûr, puisque elle tenait une bijouterie, la famille, et donc ils étaient au contact avec ce qu'on appelait à l'époque, bien sûr, les musulmans de Constantine. Et donc elle parlait à l'arabe couramment, et elle l'avait reçu en héritage, hein. Et donc elle m'a élevé en arabe. Mais c'était la langue de l'intime, la langue privée, la langue des jeux aussi, du plaisir, du rapport à ma famille, à la famille du côté Zawi. C'était pas la même chose du côté de la famille Stora. qui est la famille de mon père, qui est une autre branche.
Oui, c'est très intéressant parce que vous dites, Benjamin Stora, que longtemps vous avez cru que les Stora, justement, venaient d'Espagne d'ailleurs. Et il y avait d'ailleurs une plage qui s'appelait Stora. Stora.
Oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser, en faisant ce livre, à l'origine des noms de ma famille. Bon, la famille Zawi, dans le fond, renvoyait de manière assez classique à Zawiya, enfin, nom arabe. Alors que la famille Stora, dans les récits familiaux transmis à l'époque et après, était une famille de type aristocratique, venant d'Espagne, qui avait, disons, emporté avec elle les bagages culturels de la civilisation judéo-andalouse, arabo-andalouse. Eh bien, en faisant cette recherche, alors là, très historienne, eh bien, je me suis aperçu que l'étymologie, en fait, du nom de Stora était berbère et phénicien. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre aussi le niveau d'enracinement de la famille Stora à l'intérieur de l'Algérie, puisque le berceau de ma famille, en fait, c'était les Aurès. Et donc là, je me suis rendu compte que, dans le fond, la reconstruction du récit qui avait été fait avait peut-être pour objectif de se lier à une histoire européenne en rapport avec la présence française, qui ennoblissait quelque part, disons, cette filiation, alors que celle de ma branche maternelle était davantage tournée vers l'archaïsme, la tradition, l'Orient, etc. En fait, pas du tout. Les Zawi, eux aussi, étaient porteurs d'une très grande tradition, notamment musicale, mais tant de jouer du piano. Il y avait toujours un grand piano à queue à l'intérieur de la famille Zawi. Bien sûr, elle jouait du piano des morceaux d'arabe classique. Cette famille était également porteuse au niveau de la fabrication des bijoux, au niveau de la musique, au niveau de la tradition culinaire, etc., et de la langue, était porteuse d'une très grande tradition culturelle. Et j'ai mis du temps à le comprendre, peut-être parce que moi-même, j'avais été très influencé par ce qu'on pourrait appeler l'assimilationnisme français. Et ce qui aurait dû m'alerter, d'ailleurs, sur cette question de l'assimilationnisme, c'est que mon père, et donc la famille Stora, disons, avait passé son baccalauréat littéraire en langue arabe littéraire. Et ça aurait dû m'alerter parce qu'il y avait cette, aussi dans la famille Stora, une grande tradition d'arabe littéraire, mais pas d'arabe dialectal.
Oui, votre père était aussi très brillant, hein. Vous dites un brillant causeur, il avait fait son droit à Alger. Et ce qui est très très intéressant dans tout ce parcours que vous avez fait, Benjamin Stora, c'est qu'on voit l'importance justement de, vous parlez d'assimilation de française, mais l'importance aussi de la France, comment elle travaillait les mentalités même des petits pour leur faire oublier presque d'où ils étaient, que le but vu d'une enfance algérienne, c'était de rejoindre la France quand même, et d'être français et de masquer le reste.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand je suis né, moi, en 1950, les Juifs de Constantine d'Algérie, au sens large, étaient déjà français sur le plan juridique, de la nationalité, etc., depuis au moins 3 ou 4 générations. Un certain nombre de membres de ma famille se sont fait naturaliser français dès 1865 et sans attendre le décret Crémieux de 1870. Donc il y avait cette volonté de rejoindre l'Occident au niveau de l'égalité politique et juridique, c'est très clair, c'est-à-dire de la volonté de sortir d'une condition de dhimmi, mais en restant en Orient. C'était ça toute la complexité.
Les soumis, c'est-à-dire qu'il y avait
C'était le régime juridique du droit canon musulman qui est à la fois a pour obligation de protéger et de soumettre. Hein, c'est ce qu'on appelle la dhimmitude. Bon, alors évidemment, suivant la volonté des princes qui gouvernaient, enfin du bey en particulier, il y avait soit des séquences d'oppression de cette communauté, soit au contraire, il y a une sorte de statu quo qui pouvait exister. Mais néanmoins, lorsque la France arrive au XIXe siècle, un certain nombre de membres de la communauté juive, y compris à Constantine, même si dans un premier temps ils restent du côté des Ottomans, c'est-à-dire des Turcs, j'en veux pour preuve les habits traditionnels portés par mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle, qui étaient habillés à l'ottomane jusqu'en 1914. Néanmoins, ils avaient cette volonté aussi, sur le plan politique, d'être dans l'égalité et non plus dans la dhimmitude. Donc, c'était cela, l'attraction vers la France. Et donc, de marcher vers l'Occident tout en restant ancré dans l'Orient. De rester attaché, surtout à Constantine, encore une fois, qui est une ville singulière, hein, une ville de l'intérieur. C'est pas une ville maritime, extrêmement secrète, enfin, bon, repliée.
Presque étouffante. Hein.
Un peu étouffante, effectivement. Et c'est aussi une volonté farouche de rester attaché à la tradition. C'est-à-dire le parler, la langue, la pratique religieuse dans l'espace privé. Donc il y avait cette combinaison complexe que je pouvais deviner, voir, bien sûr, dans ma propre famille, hein, bien entendu. Hein.
Oui, vous décrivez d'ailleurs les fêtes de Pâques, où la famille de votre mère était justement, comme vous disiez, en cafetan, et il y avait une grande gaieté aussi dans les fêtes et dans
oui,
la vie quotidienne.
Oui, tout à fait. Ce mot gaieté est important, parce que je l'utilise dans le livre. Parce que très souvent, lorsqu'on a tendance à parler de l'Algérie aujourd'hui, et puis de la guerre d'Algérie, bien entendu, on a toujours l'écriture ou l'émotion qui s'exprime par la fin de l'histoire, c'est-à-dire le départ, l'exil, la tragédie, le traumatisme, etc. Mais en fait, on vivait aussi dans une forme de gaieté et d'insouciance. Il y avait de la musique qui s'échappait des cafés, il y avait le paseo, les hommes
cinémas,
et les femmes qui se croisaient, qui se regardaient, qui se draguaient, enfin bref, entre de la rue Caramand jusqu'à la place de la Brèche. Enfin, il y avait la gaieté des fêtes, bien sûr des fêtes religieuses, des fêtes juives. Les juifs de Constantine étaient très pratiquants, donc ils observaient absolument toutes les fêtes, Soukhot, Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, etc. Les fêtes musulmanes qui interféraient dans ce quartier mélangé, bien sûr, même si on évitait de s'inviter les uns chez les autres, c'est encore une autre discussion.
Mmh. On n'entrait pas dans les maisons, en fait.
Non, on rentrait pas dans les maisons.
Ni chez les Européens, ni chez les musulmans.
Mais, ni chez les juifs non plus, hein. Je veux dire, c'était très compartimenté, mais dans l'espace public, il y avait cette espèce de gaieté, brisée bien sûr par des explosions de guerre. Bien entendu, lorsqu'une grenade était lancée dans un café, lorsque, disons, un cinéma, disons, était attaqué, ou lorsque quelqu'un était assassiné dans sa boutique, évidemment, c'était l'effroi. Mais néanmoins, jusqu'en 1960-61, moi, je garde le souvenir d'une ville qui, à la fois, est très secrète, mais aussi très gaie. À travers les bar mitzvahs, les circoncisions, les mariages qui se prolongeaient tard dans la nuit avec la musique orientale, comme on disait à l'époque. Donc c'est aussi cette atmosphère de gaieté, dans le fond, ou intercommunautaire aussi, hein, que j'ai essayé de restituer dans cet ouvrage, parce qu'on a tendance à oublier tout ça aujourd'hui et à ne voir cette histoire que sur la fin tragique.
Mais il y a eu aussi des exemples comme ça de massacres, hein, le massacre de Mascara, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc il y avait des choses dans l'histoire, ou l'abrogation pendant la guerre du décret Crémieux pour les Juifs.
Donc ça a joué,
voilà,
effectivement.
Il y avait régulièrement des alertes qui annonçaient
l'exil. Lui qui a annoncé le grand départ, la grande catastrophe finale, bien entendu. Parce que si je prends l'exemple particulier de mon grand-père paternel, le Stora, mon grand-père a subi 3 chocs, et qui sont consécutifs à la grande histoire, mais qui expliquent aussi en grande partie le déclassement social de mon père et de ma famille. D'abord, le choc de la crise économique de 1929, qui a traversé toute l'Algérie. Le second choc qui a ruiné encore plus la famille, c'est l'abrogation du décret Crémieux en 1940, 41, 42, où là, la plupart des biens de mon grand-père à Rennes-Chlan ont été confisqués et redistribués à des Européens. J'en ai retrouvé la trace dans les archives à Aix-en-Provence, bien entendu. Et puis, bien sûr, le troisième choc, au moment où mon père pouvait s'installer, comme on disait, à son compte et pouvait commencer à respirer ou gagner de l'argent, c'est-à-dire, je parle des années 55, 56, 57, est arrivée la guerre d'Algérie. Avec effectivement le fait que les commerçants juifs étaient boycottés par les musulmans, puisque mon père vendait de la semoule. Donc il a souffert de la guerre à partir des années 57, 58, 59. Donc il a 3 chocs sur une famille en même pas une génération. Et donc ça aboutit précisément en 1960-62 à une forme de déclassement social lorsque va sonner l'heure du grand départ de 1962. Ben cette famille Stora, qui avait été riche, qui est importante, puissante, eh bien cette famille va se retrouver en grande difficulté sociale, de sorte que lorsque nous sommes arrivés ensuite à Paris en 1962, eh bien ça a été quelque chose de terrible pour mon père et ma mère et ma sœur, c'est
qu'ils ont
connu la pauvreté.
Recommencer, oui.
On a connu la pauvreté qu'on ne connaissait pas avant, et ça a été un choc social extrêmement profond.
Oui, vous viviez dans un
bah, on
garage,
a vécu, on a vécu dans une sorte de forge désaffectée, parce que mon père, pendant la guerre, avait rencontré quelqu'un à Constantine, qu'il avait aidé, en fait, c'est une histoire un peu romantique, il avait aidé un aviateur anglais qui avait été parachuté sur Constantine en 42, il l'avait caché, etc., jusqu'au débarquement de novembre 42. Et donc, cet homme, ensuite, a aidé mes parents après 62, et donc il avait un tout petit logement, mais qui était dans le 16e. Donc la contradiction, c'est que c'était un truc misérable, mais tout près de l'avenue Mozart, dans le 16e. Donc on était à la fois dans des conditions très dures sur le plan social, mais moi j'allais au lycée Janson de Sailly. Donc le choc, quand je suis rentré en 5e, j'avoue que là, ça a été le grand bond en avant, quoi, sur le plan culturel et social.
En même temps, vous soulignez que quand vous êtes arrivé, vous dites « je savais instinctivement que j'appartenais à une vieille et grande histoire ». C'est un peu la clé du livre aussi.
Bah oui, parce qu'en fait, malgré le silence et la pauvreté de ces années 62, 65, 66, je savais que j'étais dans une grande histoire, même si ceux qui me fréquentaient ne le savaient pas. Ça renvoie effectivement aussi à ce qu'on vit aujourd'hui. Lorsqu'on fréquente ceux qu'on appelle des immigrés, des étrangers qui font des travaux souvent pénibles, etc., on ne sait pas à quelle histoire ils appartiennent, quel diplôme ils ont pu avoir. Et le déclassement, le chaos, le choc qui a pu être leur vie, pour qui les a conduits à l'exil et au départ. On ne sait pas tout ça. Donc on les regarde de manière étrange et peut-être un peu méprisante. C'est ce regard-là que j'ai subi, que j'ai vécu étant enfant en arrivant en France. Mais je savais que j'étais dans cette histoire. Cette histoire de ces deux grandes familles, en fait, qui ont des trajectoires différentes, bien sûr, mais qui sont des grandes familles dans le sens culturel. Mon père, il maîtrisait parfaitement l'arabe littéraire. Il a fait ses études de droit, bien entendu. Il avait comme ami le peintre Atlan, qui a beaucoup, beaucoup influencé mon père. Il avait été très affecté par sa mort en 1960, 62, etc. Il fréquentait par conséquent des milieux politiques à Constantine, des trotskistes, des révolutionnaires. On ne sait pas que tout ça a existé, dans le fond. Je parle des années 35-36, il combattait l'antisémitisme, il combattait le fascisme. Quant à ma mère, effectivement, elle appartenait à la grande tradition des bijoutiers, des artistes bijoutiers, qui créaient des bijoux. Et fondamentalement, dans le silence qui était le mien de cette arrivée en France, jusqu'en 68 pour aller vite, consciemment ou inconsciemment, quand même, ce qui me rassurait et me confortait, c'est que j'étais adossé à cette histoire. Vous savez, un petit détail, quand on est arrivé en 62, à l'été 62, mon père, la première chose qu'il nous a fait faire, à ma sœur et à moi, c'est qu'il nous a fait visiter le Louvre. Et ça, je l'oublierai jamais. Parce que le Louvre, il nous a indiqué le chemin, voilà. C'est-à-dire le Louvre, et ensuite on est allé au château de Versailles. On venait d'arriver depuis un mois, et il nous a dit, vous savez, mes enfants, je vais vous apprendre à découvrir la France. Et qu'est-ce que c'est que la France? Eh bien, la France, eh bien, c'est le Louvre et le château de Versailles et la République. Et ça, je peux pas oublier ça. Donc ça veut dire que j'arrivais, en fait, avec un capital culturel. Même si on était très pauvres sur le plan matériel, sur le plan social, on avait et on portait, ma sœur et moi, un capital culturel.
France Culture, Carnet Nomade, Colette Félix.
Exil, avant, après, avec cette fois Élise Pestre, qui est une jeune psychanalyste, autour de son livre « La vie psychique des réfugiés ». Pour agrandir ces termes d'exil avant, après, Élise Pestre, nous pourrions peut-être retrouver aussi des choses dans le 21e siècle avec cette question essentielle qui est celle des réfugiés. Vous avez écrit un livre, vous travaillez sur cette question, la vie psychique des réfugiés. Comment aborder cette question de l'intérieur, hein, puisque c'est un peu ça que vous faites, vous êtes allé questionner sur le terrain, on peut dire, hein, sur des réfugiés de tout pays.
Moi, j'ai essayé de travailler à partir de cette population réfugiée qui parfois souffrent de psychotraumatismes, fuient des persécutions. Ils vont être plus ou moins mis à l'épreuve déjà avec les épreuves vécues avant et ce qu'ils vont aussi rencontrer en terre d'accueil.
Oui, quand on pense aux réfugiés qui arrivent en France et qui demandent l'asile, il y a aussi cette question de la vérité. Est-ce que ce qu'ils vont dire, est-ce que leur récit de vie est vrai? Est-ce que il paraît qu'il y a des vendeurs d'histoires à Barbès? Est-ce que la difficulté, ce serait pas justement pour ceux qui les accueillent de repérer leur vérité, en sachant que la vérité est ce qu'ils ont vécu, qui est traumatique souvent, des viols, des tortures, est difficile à dire de toute façon. Et il y a ce franchissement comme ça du langage qu'ils doivent aborder et qui n'est pas toujours facile.
Alors en effet, lorsque les réfugiés demandent l'asile, alors en tout cas ils doivent produire à l'OFPRA, donc qui est l'Office français pour les réfugiés et apatrides, un récit de vie qui va prouver, appuyer en quelque sorte leur trajectoire et venir expliciter leur fuite des persécutions et leur crainte pourquoi ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Donc moi j'en ai parlé en termes d'injonction à témoigner de l'État, donc c'est une expression assez forte, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a souvent un contraste entre la manière dont le réfugié arrive, un peu perdu, on peut parler d'une sorte de parcours du combattant juridique, quoi, et puis et il est mis en lieu et place de devoir témoigner assez rapidement de ce qu'il a vécu. Et là, on va voir que ça va être compliqué, en fait, parce qu'il va s'entremêler sa forte nécessité d'obtenir ce droit d'asile, ce statut de réfugié, avec sa subjectivité, précisément, ce qu'il a vécu et les blessures que j'évoquais. Donc on voit bien que parfois, ceux qui vont pas bien, pas tous ceux qui demandent l'asile, mais vont parfois être en incapacité, en fait, de produire un témoignage construit, ordonné, exhaustif, précis, comme il est requis. Donc là, ils vont parfois fabriquer des récits mi-vrais, mi-fictifs, avec ce qu'ils imaginent qui serait bien pour leur demande d'asile. Et là, on va se retrouver face à la construction de récits qui vont être en général détectés, bien sûr, par les agents dont c'est le métier. Mais on voit bien que ça va avoir une fonction défensive, en fait, pour le réfugié, qui va être de se protéger parfois en utilisant un récit de quelqu'un parce que il le trouve mieux raconté, il le trouve ça vient un peu comme une béquille pour lui, une béquille défensive.
Il y a l'oubli aussi parfois.
Il y a l'oubli, absolument. C'est-à-dire que un des effets du traumatisme, c'est le refoulement. Il y a d'une part le refoulement et puis il y a d'autre part même la forclusion d'éléments. C'est-à-dire il y a une telle violence du réel, des actes qu'on a obligés à commettre, des viols, des meurtres, des incestes, obligés, des choses comme ça, en fait, vont être complètement réprimés pour survivre psychiquement et vont être même évacués du psychisme dans les violences très graves. Et donc, ça va être très difficile pour le demandeur d'asile de les restituer, en fait, ces souvenirs-là, qui sont bien ceux qui viennent prouver ces persécutions, généralement, au risque de venir comme ça raviver tous les affects très violents que ça a pu produire. Donc on voit bien cette injonction-là, ce qu'elle vient toucher et rendre complexe quoi, pour le réfugié. Et donc, quand on voit qu'il y a 50 millions aujourd'hui de réfugiés dans le monde, autant qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, je crois que des fois, on ne mesure pas non plus l'ampleur de ce que ça représente quand même. C'est vrai que c'est là où on voit le flou de la catégorie de réfugiés d'ailleurs. Il y a de plus en plus de réfugiés et qui sont à la frontière de réfugiés socio-économiques avec des climats de guerre, de conflits armés qui durent depuis des dizaines d'années où il y a un afflux massif toujours de réfugiés parce que voilà, les renversements de gouvernement, etc., font que les gens ne peuvent pas vivre en paix, en fait. Ils partent, quoi.
Et la difficulté aussi, c'est comment vivre ici, après l'exil, après l'acceptation du dossier, quand ils sont reconnus en tant que réfugiés. Ce qu'ils attendaient, ce paradis, n'est pas forcément un paradis, après.
C'est vrai que là, il y a plusieurs cas, situation. Pour ceux qui sont reconnus, il y a en effet une sorte de soulagement en premier lieu. Et puis après, il y a il y a beaucoup de choses à faire, à construire. Et puis on réalise aussi toute cette trajectoire passée. C'est vrai que quand il était demandeur, il est dans une position aussi assez active, finalement, le sujet. Et puis là, il a son statut, il peut être assez passivé, là. Donc ça va être important, justement, cette prise en charge multiple pour qu'il puisse, justement, rebondir aussi. Et puis Là, l'environnement va être absolument fondamental, hein, c'est-à-dire les réseaux. Comment il va pouvoir, je dirais, plutôt intégrer l'être ensemble du nouveau lieu dans lequel il est. C'est-à-dire comment il va pouvoir devenir citoyen dans une Europe quand même, il faut bien le dire, assez fermée. Hein. On a vu depuis une quarantaine d'années la fermeture des frontières, qui est quand même assez forte, et puis les mouvements nationalistes, etc., qui sont quand même des signes, en fait, de crainte, hein, parce que l'étranger, il est celui sur qui peuvent venir se cristalliser nos peurs aussi les plus intimes.
Voici une des premières pages de Paula Jacques dans son roman « Au moins, il ne pleut pas ». Ce sont les deux enfants, un frère et une sœur, Lola et Soli, qui sont sur le bateau et qui arrivent à Haïfa. Une fois à quai, après 4 jours de navigation houleuse, la terre ferme dansait sous les pieds des immigrants. C'était la joie, l'émotion, les prières qui les soulevaient d'une vie légère au-dessus du sol huileux et gras. Des coups de sifflet partaient pour rassembler et ordonner la 50aine de familles aux innombrables enfants. Des policiers les dirigèrent, tant bien que mal, toutes ces valises à se coltiner, les baluchons, les paniers d'osier, les nattes en paille, les matelas roulés, les bassines, les casseroles, les réchauds à alcool, les poussettes, les berceaux, la marmaille pleurnicharde et ensommeillée, vers une sorte de parcage, un grand carré entouré de barrières métalliques, où on viendrait les chercher pour procéder aux formalités d'enregistrement des nouveaux olim, c'est-à-dire des immigrants en hébreu. Exil avant, après, avec vous, Paula Jacques, donc après l'histoire vue par un historien, Benjamin Stora, même s'il parle beaucoup de sa vie quotidienne, après aussi Élise Pestre qui parle des réfugiés, vous avez choisi, vous, Paula Jacques, en fait, la fiction, le roman, même si vous avez une histoire d'exil, on peut dire, personnelle. Tous vos romans sont fixés aussi sur cette période des années 56, après, en Égypte, quand vous êtes partie, vous, en quelle année, en fait?
Alors moi, je suis partie en 58, donc j'avais 9 ans. Et effectivement, je suis une romancière, c'est-à-dire que je me sers d'histoires que j'invente, mais qui sont toujours basées soit sur des petites choses que j'ai vécues, soit sur des blessures qui m'ont affectée ou des sentiments. Et ce livre-là est réellement fictionnel.
Au moins, il ne pleut pas.
Oui, au moins, il ne pleut pas, mais tous les sentiments exprimés sont les miens. C'est-à-dire ce sentiment d'abandon, les enfants, des orphelins qui sont obligés de quitter le Caire, au moment de Nasser, après la mort de leurs parents dans un accident de voiture, qui arrivent en Israël complètement paumés, 14, 15 ans, ils savent pas du tout ce qu'ils vont devenir, et ils sont, comme tous les immigrants, les orphelins, remis entre les mains de l'agent juive qui doit prendre soin d'eux. Et eux, ils ne savent rien de cette terre. L'agent juive les met dans un camp de réfugiés. La boue, les masures, le spectacle de tous ces immigrants comme ça qui attendent depuis des mois. Et puis, quelqu'un vient leur dire « barrez-vous vite, parce que l'agent juive sépare les frères et sœurs.
Ils ne feront pas
de cadeaux et eux ne veulent pas être séparés. » Alors, ce point de départ, c'est exactement mon histoire. Quand j'arrive, donc en 58, avec mes deux frères, mon père étant mort, ma mère n'étant pas là. Ils nous mettent dans un camp de réfugiés pendant 2-3 mois. Et puis, ils nous ont séparés, mes deux frères et moi. L'un est allé dans un kibboutz, moi dans un autre, et le petit. Et tout ça, ça a duré 3 ans. Je ne les ai pas vus pendant 3 ans.
Mais votre mère vous a laissé partir comme ça, tout seul, en Israël, Paula?
En fait, ma mère, elle est très opportunément tombée malade. Mon père était mort. Tout le monde partait en Égypte, on a été expulsé. Je pense qu'elle avait très peur de se retrouver avec 3 gamins sur les bras. Donc, elle est tombée malade. La famille avait peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous partons en Amérique, en Argentine. Si elle meurt, on va se retrouver avec 3 mioches. Donc, ils nous ont confié à l'agent juive. Elle était donc, c'était la mère formidable, douloureuse. Elle s'est très très vite remise, nous dit-elle, parce que elle peut pas être séparée de ses enfants. Donc elle s'est remise de son cancer, elle a foncé en Israël. Elle est venue nous voir au kibboutz, elle a pris une chambre d'hôtel à Haïfa. Elle a appelé le responsable de l'agent juif en disant « Moi, je peux pas vivre dans ce pays, il n'y a pas de confort, les toilettes sont dans l'escalier. » Alors le type lui dit « Mais madame, vous avez vos enfants ?»« Oui, ben mes enfants, oui, justement, c'est pour eux, pour leur avenir. » Alors, et puis il lui a dit « Mais vous savez, madame, ce pays sera un paradis dans 50 ans. Ben, dans ce cas, je reviendrai dans 50 ans.
Ah, » oui.
Et elle est partie.
Elle est
arrivée
en France.
Voilà, une vie très dure. Mais tous les mois, elle nous écrivait « Le mois prochain, je vous fais venir à Paris. » Et ça a duré 3 ans. Et je me souviens de ce sentiment d'abandon terrible, de perte de repères, de tendresse aussi. Et je crois que le livre est parti de là, c'est-à-dire que mes orphelins venus d'Égypte, ils débarquent dans ce port et puis à la suite de cet avis, foutent le camp, ils s'en vont. Parce que le jeune homme, lui, était un petit malin, très débrouillard, qui a une haute idée de la responsabilité qu'il se fait pour sa sœur.
Donc c'est Lola et Soli.
Lola et Soli, et ils vont donc fuir à Haïfa et atterrir dans une étrange maison, une belle maison, dans ce beau quartier qui fut beau autrefois et qui est désormais habité par des Marocains pauvres, au chômage. Et dans cette grande maison vivent deux femmes très étranges, avec des rapports très étranges, qui sont deux rescapées du camp de concentration de Ravensbrück. Et à partir de là...
Et donc tout le livre, en fait, va être une enquête un peu sur ces deux femmes.
Voilà. Alors, c'est
par
le livre,
la petite Lola.
Voilà, c'est le livre aussi d'une comment s'adapter à ce nouveau pays, comment choisir. Et surtout, tout de suite, comme c'est un roman, ils vont se trouver confrontés à la réalité d'Israël à cette époque-là. On est en 1959. C'est un pays très, très pauvre, qui est animé d'un très grand idéal. On va faire de ce pays un pays de gens modernes, de soldats, de conquérants. Bon, on est là, on n'est plus servile, on ne plie plus la nuque. Et puis, il y a aussi donc tous ces juifs qui débarquent des pays arabes et qui sont considérés comme des arriérés mentaux, quasiment. Pas d'éducation.
Ils sont maltraités, en fait.
Ils sont maltraités, ils sont méprisés, ils font des tonnes d'enfants, on n'arrivera jamais à les assimiler. Et il y a une autre population aussi qui est très mal vue à cette époque, en 59-60, ce sont les déportés des camps de concentration, les survivants. Parce qu'on considère, d'abord on veut tirer un trait sur toute cette diaspora qui pendant des siècles s'est soumise, qui est allée à l'abattoir comme des moutons. Et quant à ceux qui ont survécu et qui prennent refuge là, dans ce pays, c'est que forcément, ce sont des mauvais, des méchants.
Des traîtres.
S'ils ont survécu, c'est qu'ils ont marché sur le cadavre de leurs amis. Donc il y a deux groupes qui vont être au centre de cette histoire pour l'évolution de Lola et Soli. Et je raconte donc comment est-ce qu'on, à cette époque, c'est un pays très pauvre, mais qui doit en plus intégrer des gens venus d'horizons tellement différents que ça pose beaucoup de problèmes. Mais au fond, ça c'est le cadre historique très important, mais le vrai fond de cette histoire, c'est comment deux orphelins paumés, en quête de parents et d'affection, vont, au bout de beaucoup de vicissitudes, former une famille de tendresse et de chaleur humaine avec deux femmes survivantes des camps.
Ces deux femmes qui sont Tante Magda et Ruti.
Voilà. Hein,
c'est vraiment des noms aussi, ce sont déjà des personnages de romans et vous arrivez très bien à leur donner une langue, hein, une langue très colorée.
Ce sont
colorée
des femmes qui viennent d'Europe. Magda, c'est une Alsacienne, pas très éduquée, mais alors c'est une femme d'une force extrême, rayonnante de bonté, de générosité, un peu vulgaire parce qu'elle n'a pas eu d'éducation, tandis que sa copine, Ruti, c'est une espèce de princesse belge dont le père était industriel, et ces deux femmes ont des rapports très étranges. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles sont liées par je ne sais quoi, elles s'adorent, elles vivent ensemble depuis...
Elles ne veulent pas se quitter, comme
elles
le frère
se quitter.
Et
en
la
même
sœur,
temps, il y a entre eux quelque chose de l'ordre de l'antagonisme comprends pas très bien. Alors, tandis que Soli va qu'à ses petites escroqueries pour faire tourner la marmite sur le port.
Alors, lui, il vend des fausses
montres. Il vend tout. Bon, c'est un petit voyou, très sentimental par ailleurs. La petite Lola, qui elle ne vit que pour et par les livres, va se passionner pour le mystère de ces deux femmes. Et surtout pour Ruti.
Donc, elle pose beaucoup de questions. Elle fouille.
Qui ne veut pas parler du passé. Qui considère les petits comme des intrus, qui s'enferment dans sa chambre à clé. Personne ne peut y pénétrer. Et Lola ne cesse de broder des histoires autour de ces femmes. Et la réelle histoire de ces deux femmes va dépasser de très très loin toutes ses imaginations possibles quand elle la découvrira.
Oui, après le roman s'emballe et il y a aussi, Paula Jacques, cette région en fait, près de Haïfa, ce quartier disons de
Wadi Salib.
Wadi
Salib est un quartier très spécifique, très, très particulier à Haïfa. Haïfa c'est une très belle ville, surtout à cette époque, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de construction, beaucoup de collines, des petites maisons blanches. Et à flanc d'une de ces collines, sous le Carmel, il y avait donc ce quartier qui était à flanc de colline, qui était construit de très très belles maisons blanches de style mauresque, qui appartenaient aux notables arabes, palestiniens sous l'Empire ottoman. En 48, évidemment, comme vous savez, le mouvement de panique, tout le monde s'en va et le gouvernement israélien va placer dans ces maisons les premiers immigrants qui arrivent un peu partout, et spécialement des pays arabes. Seulement, les maisons sont tout de suite très vite dégradées. Il n'y a pas d'eau potable, c'est la ruine. On s'entasse à 20 dans une toute petite maison. Quelquefois, les gens dorment sous les escaliers. C'est un quartier à la fois très beau, qui a des traces de splendeur et qui est très misérable, sordide et magnifique à la fois. Mais en même temps, comme c'est un quartier, les gens se connaissent, il y a une espèce quand même de joie de vivre, qui est la joie de vivre orientale. Et les personnages que j'ai placés dans ce quartier, il y a d'une part Magda et Ruti qui habitent cette maison autrefois seigneurale. À côté, il y a le voisin Sandok, qui est celui, au fond, qui est comme le cœur de tous les autres Marocains. Et c'est un homme qui fait des tonnes d'enfants, qui boit énormément, qui est désespéré, qui a une espèce de verbe magnifique. Et c'est lui qui, à un moment donné, va provoquer les insurrections de Wadi Salib, parce qu'un jour, il rentre dans le bistrot où il va, il boit, il veut boire encore, il a pas d'argent. Le patron le fout à la porte, il se fâche, il casse tout, les flics arrivent et on lui tire 2 balles dans la jambe. Donc ce que j'ai à coller à ce personnage, Sandok, le voisin de Lola Ousseli, c'est la réalité, c'est-à-dire que les émeutes de Wadi Salib ont réellement démarré de cette façon. C'est la première révolte, la première insurrection en Israël, qui date de 1959. Alors tous ces Marocains, au chômage, méprisés, encombrés d'enfants, vivant dans la misère, vont un jour se soulever, ils vont tout casser dans leur quartier. Mais ce qui va terroriser les autorités, c'est qu'ils se répandent dans les quartiers riches de Haïfa et ils vandalisent tout autour d'eux. En mesure de rétorsion, le gouvernement va, quelque temps plus tard, disperser cette tribu vaincue aux quatre coins du pays, et ils vont raser le quartier. Donc ça, c'est un élément très très important dans le livre, puisque mes personnages vivent à Wadi Salib, et après l'exil du Caire, il y aura aussi l'exil de Wadi Salib et le départ vers une nouvelle vie.
Et à ce moment-là, on ne parle pas des Palestiniens, en fait. Les Palestiniens sont invisibles.
Alors, c'est très frappant, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup lu de romans situés à cette époque, j'ai regardé des films, et bien, les Palestiniens, les Arabes israéliens n'apparaissent pas. C'est un peu comme dans les films coloniaux, où l'indigène est en fond de scène, dans le décor, il n'y a pas de problème. Le pays est en paix, relativement, depuis la guerre de 48. Il y a quelques accrochages dans les kibbutz à la frontière avec la Syrie, la Jordanie. Mais c'est étonnant, même chez des écrivains israéliens aussi importants qu'Amos Oz, il n'y a pas d'arabes, quasiment.
Et vous parliez tout à l'heure, Paula, de vos blessures d'enfant. C'est sûr qu'un enfant ou deux enfants, un frère et une sœur séparés de la mère et allant dans un autre pays sans rien connaître, ça laisse forcément des traces. Et aussi un attachement peut-être aussi pour l'Égypte, parce que vous avez souvent campé vos romans dans au Caire.
Oui.
Donc comment vous souvenez de ces blessures ? Là, c'est autre chose.
Je crois que dans ce livre, en fait, il y a des petites bouffées d'Égypte, puisqu'ils pensent à la mort de leurs parents, ils pensent à leur enfance. Mais en fait, ce que j'ai conservé du Caire, c'est que ces personnages viennent d'Égypte, ils ont une culture égyptienne, ils ont l'exubérance, mais leur véritable patrie, en tout cas celle de Lola, avant que ça devienne Israël, ça va être la langue française. Mmh. C'est une petite qui adore la lecture, et son pays, ce sont les livres français, quoi. Donc j'ai moins traité le côté égyptien. En fait, ils sont pris dans la masse de tous ces juifs arabes qui sont très mal vus, et ils sont en première ligne. Et l'autre sujet très très important, c'est qu'en Israël, jusqu'en 1960, on ne parle pas du génocide. On ne veut pas entendre les déportés, on ne veut pas entendre les survivants, mais surtout, ça n'intéresse pas. Je veux dire, on ne sait pas, on veut bâtir le nouvel homme israélien. Et à l'arrestation d'Eichmann en 1960, tout d'un coup, il y a une vague de dénonciations à travers tout le pays pour les collaborateurs juifs dans les camps nazis. Et il se trouve que l'une des deux femmes va être prise à ce terrible
tante
jeu
Magda.
Où tout d'un coup, tante Magda, où tout d'un coup, moi je considère que ce sont des victimes, qu'elles ont été martyrisées avant d'en arriver à accepter des postes de responsabilité relative pour survivre. Moi, j'ai voulu expliquer en fait que je suis pas du tout d'accord avec cette vision propagée par Hannah Arendt au moment du procès Eichmann, selon laquelle, au fond, les collaborateurs juifs des nazis étaient aussi responsables qu'eux et que sans leur collaboration, on n'aurait pas assassiné 6 millions de juifs. Je trouve que c'est absolument manqué d'humanité, de compréhension et de pitié pour le martyr de ces gens-là qui ont fait quoi ? Qui ont répondu à l'instinct basique de survie. Et c'est fort beau parce que dans...
Elle explique bien d'ailleurs, tante Magda, ce processus.
Voilà. Ils ont été les jouets pervers des bourreaux. Et ensuite, quand ils ont survécu, eh ben, c'est une victoire de l'instinct de vie sur la mort proclamée pour tous les juifs.
Oui, vous citez à un moment une phrase de Rilke, hein, « Tout ce qui est terrible a besoin de notre amour ».
Oui, alors ça résume tout à fait la seconde partie, c'est-à-dire que ce qui va arriver à Magda est absolument terrible. Elle a peut-être fait des choses terribles, mais c'est pour ça précisément.
Elle est emprisonnée,
C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de notre amour, et c'est la deuxième partie de ce livre. Je crois que c'est un livre très dur, mais c'est aussi un livre très tendre, parce que ça raconte finalement une histoire d'amour improbable, entre des gens qui vont se retrouver, qui vont se soutenir, qui vont s'aimer, qui vont être ensemble comme une vraie famille.
Et quand vous étiez dans ce kibboutz pendant 3 ans, Paula Jacques, donc en Israël, est-ce qu'on parlait des camps? Est-ce qu'on parlait du passé de chacun? Est-ce qu'on parlait justement?
Alors, dans le kibboutz où j'étais, évidemment, moi j'étais petite fille, mais je suis quand même restée jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'en parlait absolument pas. Hein. Je voyais bien qu'il y avait des membres du kibboutz qui avaient le chiffre tatoué sur l'avant-bras gauche, qui avait été à Auschwitz, même la femme qui me servait de mère d'adoption, parce que tous les orphelins dans les kibboutz avaient une famille qui les recueillait. Cette femme était hongroise, elle avait le bras tatoué. C'était une femme sans doute très bonne, mais très dure avec moi. Les rapports étaient durs, la vie était dure. Et je n'ai jamais imaginé que cette femme avait été torturée dans un camp.
Elle ne me parlait pas.
Non, pas du tout. Donc moi, je quitte Israël et je déteste la vie que j'ai eue là-bas. Je déteste ces gens-là et j'arrive en France. Et là, évidemment, je m'installe, je lis des bouquins. Et en 68 seulement, je lis Le dernier des Justes de Schwarzbart et je découvre le génocide.
Donc tard,
et je découvre que ces gens qui étaient avec moi dans ce kibboutz et qui étaient des adultes, qui m'obligeait à travailler dur, qui me sermonnait parce que j'étais pas tout à fait aussi disciplinée qu'il fallait, et ben ces gens-là sortaient de l'enfer. Je le découvre 10 ans plus tard.
Et vous aviez envie de quitter Israël aussi après ces années de kibboutz?
Furieusement. Moi, je n'attendais qu'une chose, c'était d'arriver en France. Moi, j'avais l'impression que je connaissais toute la France parce que je lisais les romans français, je lisais La Semaine de Suzette. Enfin, la France, ça devait être mon pays. Je disais d'ailleurs revenir en France.
Et donc, c'est aussi pour ça peut-être que vous organisez tous vos romans dans cette période avant le.
C'est
avant
vrai. Ce qui me reste de mon enfance, c'est que toutes ces histoires que j'invente commencent toujours par la disparition d'un monde, hein, la difficulté d'avoir à s'insérer dans un nouveau monde ou à le reconstruire. Et c'est vrai que j'ai besoin de cadres historiques très très forts parce que moi, mon destin a été déterminé par les tsunamis de l'histoire, en fait.
Culture, carnet nomade, Colette Philous.
Exil avant, après, avec vous, Benjamin Stora, pour votre livre Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine, et cette chanson de Paul Anka que vous connaissez bien sûr, You Are My Destiny, c'est une chanson qui en fait raconte vraiment bien cette époque où on avait envie de sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, que toute la vie des réfugiés, des exilés allait être différente, et on sent bien que vos parents ont aussi voulu, comme beaucoup d'autres parents, protéger leurs enfants en leur donnant la direction des études, en leur disant que c'était en France qu'ils allaient habiter désormais, qu'il fallait pour eux choisir un métier qui soit différent de tous les métiers qu'on réservait aux dhimmi. Et parfois, ils ne parlaient même pas de la souffrance de la Deuxième Guerre. On dirait qu'ils voulaient vous protéger.
C'est-à-dire qu'on ne parlait pas, vous savez, les histoires, Crémieux, Abroger, la confiscation des biens, la chute sociale, la Shoah. Je parle de tout ça dans l'ouvrage, hein. J'évoque tous ces silences. J'ai découvert en France l'ampleur de la destruction des Juifs d'Europe quand je suis arrivé en France, fondamentalement. C'était un grand secret quand on était enfant. Il y avait des bribes de conversations qui nous arrivaient comme ça, mais dans le fond, c'était quelque chose qui n'était pas partagé vraiment. Hein. Et les parents avaient effectivement pour ambition de faire en sorte que leurs enfants avancent dans l'étude, le livre, bien sûr, l'éducation, la culture, pour essayer de sortir.
Elle ne soit pas dans le judaïsme, dans une, c'est ça aussi.
Le rapport au judaïsme était conçu comme exclusivement privé. Mmh. C'était une marque identitaire personnelle. Il y avait quand même cette imprégnation, avant l'arrivée en France déjà, de la tradition républicaine, française, hein, tout simplement. Donc quand les Juifs d'Algérie, vous savez, arrivent en France en 1962, ils sont français depuis 5 générations. Mmh. Donc ils ont déjà quand même beaucoup les codes, à la différence par exemple des Juifs de Tunisie ou du Maroc.
Mmh. Ils ont déjà 130 000, les codes, hein, vous dites 130 000 Juifs qui quittent le pays en 62.
Quelques milliers vont rester en Algérie après 62 et progressivement quitteront ce pays en 65 après le coup d'État, en 67 au moment du conflit israélo-palestinien, puis plus tard dans les années 80-90 au moment de la tragédie algérienne, les derniers juifs quitteront l'Algérie, la fin d'une grande histoire. Hein. Et d'ailleurs moi quand j'y retourne en Algérie pour faire des conférences, pour rencontrer des collègues, etc., je sens toujours à chaque fois cette nostalgie, hein, de cette trace juive si forte dans ce pays et qui a disparu. Il y a une vraie nostalgie, pas simplement dans les vieilles générations, cette nostalgie est réelle, mais il y a une volonté aussi dans les nouvelles générations de comprendre...
Oui, c'est 2000 ans d'histoire.
C'est 2000 ans d'histoire, absolument, qui sont partis. Donc ça ne s'arrache pas aussi facilement dans des mémoires, bien entendu.
Et vous parliez de votre grand-père, Benjamin Stora, qui s'appelait aussi Benjamin Stora, et des chocs qu'il a eus. Et vous, on pourrait dire aussi qu'il y a eu des chocs. Hein. On parlait de ce début de la guerre d'Algérie, quand il y a eu cette violence qui est entrée dans votre maison, mais aussi beaucoup d'attentats, beaucoup de bombes, des nuits bleues, et aussi le 22 juin 61, l'assassinat du chanteur Raymond Léris.
Alors ça, c'est le grand choc, évidemment, parce qu'il se trouve d'ailleurs que j'étais avec ma mère sur le marché où il a été assassiné. Ça a été le grand choc dans la communauté juive, pas simplement à Constantine, mais dans l'ensemble du pays, l'ensemble de l'Algérie, un peu comme le signal du grand départ, en fait, fondamentalement. Parce que Raymond était très proche de la communauté musulmane, il chantait en arabe, bien entendu, c'était... un chanteur extrêmement respecté dans toutes les communautés.
Cheikh Raymond.
Son assassinat a marqué véritablement la fin d'une histoire. Ce caractère symbolique, cet assassinat qui a frappé la communauté juive, le cortège, l'enterrement, la procession qui a traversé le pont suspendu, qui est montée jusqu'au cimetière. J'étais avec mon père à cet enterrement, comme enfant, j'avais 11 ans. Ça a marqué profondément les esprits et c'était vraiment aussi malheureusement, la fin d'une histoire traditionnelle. Quoi.
Vous dites qu'il pleuvait et qu'on disait même Dieu.
Moi, c'est mon père qui me dit ça.
C'est votre père qui disait
ça. Oui, tout à fait, parce qu'il a fait très mauvais ce jour-là. C'était en juin, hein, 1961. Donc, ça vient à Constantine, il faisait toujours très chaud. Hein, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, c'était quand même la grande chaleur. Et bien là, ce jour-là, il se trouve que le ciel était couvert. Et mon père m'a dit effectivement cette phrase au moment de la procession. Il m'a dit, tu vois, mon fils, même Dieu pleure. Aujourd'hui, c'est dire si l'instant était grave.
القلب عندك احبس لا يبذل ولا يغير
donc Benjamin Sora, vous avez rassemblé toutes les phrases importantes, en fait, de vos parents qui vous ont donné peu à peu, comme ça, avec cette photo aussi qui est sur le livre où vous êtes justement à Paris dans les premiers mois.
Ben, la photo,
avec votre père qui a.
Oui. Ben, la photo, elle fait partie aussi de ces documents retrouvés à la mort de ma mère, puisqu'elle avait un tout petit album où elle avait mis dans cet album les photos qui lui tenaient le plus à cœur. Et dans ces photos, il y avait effectivement une ce qu'on appelle les photos matons. J'étais avec mon père en l'été 62, gare Saint-Lazare. On s'était pris en photo tous les deux. Et j'ai mis cette photo en couverture parce que le visage, le regard, l'expression de mon père était extraordinaire. C'était un visage d'un homme de 53 ans, donc qui n'était pas du tout un homme jeune, et qui était un regard d'inquiétude.
Soucieux, même temps
soucieux,
clair.
Alors que moi, je suis totalement à côté de lui, rayonnant, peut-être parce que je m'estime en sécurité à côté de lui, je ne sais pas, ou peut-être parce que c'est la fin de la guerre d'Algérie, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, il me dit de regarder l'objectif, mais de manière inquiète, quelque part. Et ce visage de mon père m'a bouleversé. Et je me suis dit, dans le fond, c'était à la fois la fin d'une épreuve qui était celle de la guerre et le début d'une autre épreuve qui était celle de l'exil, en fait, fondamentalement.
Oui, l'exil, après, avant, après. Oui. Il y a une lettre, d'ailleurs, que vous reproduisez et qui est complètement intégrale, quand il demande un autre logement. Hein,
ça aussi, je l'ai retrouvé dans les affaires. C'est une lettre poignante, parce qu'il écrit à l'administration de l'époque pour demander un logement, parce qu'on vivait dans des conditions insalubres, c'était très difficile. Et la lettre qu'il fait est extrêmement émouvante, parce qu'il décrit notre vie à ce moment-là, à l'hiver 62-63, qui avait été un hiver absolument épouvantable, un hiver terrible. On n'avait pas de chauffage, etc. Et il demande un logement, quoi. Et c'est cette question du logement, de la revendication du logement, pour ceux qu'on a appelés à l'époque les pieds noirs, parce que c'est comme ça qu'on les appelait tous à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre juifs, européens, etc. Eh bien, c'était la grande préoccupation, hein, je veux dire, de tous ces gens exilés. C'est beaucoup, à la limite, plus que le travail, il y avait le logement. Et finalement, un an plus tard, c'est en 1964, donc mes parents ont obtenu un HLM, qui était donc à Sartrouville, donc dans une cité ouvrière à Sartrouville. Et là, c'est là ensuite que j'ai grandi, à partir de 1964, 65, etc.
جنحاني نقطع بحر وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك باجرافية والقلب واشغبنه ونعيد لك باجرافية والقلب واشغبنه قولوا شريف العيالي
C'est avec cette chanson de El Gusto que se referme ce carnet nomade. Merci à vous trois, Benjamin Stora, pour Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine, aux éditions Stock dans la collection Un ordre d'idées, Élise Pestre, La vie psychique des réfugiés dans la petite bibliothèque Payot, et puis Paula Jacques, Au moins il ne pleut pas, un roman qui est publié chez Stock. À signaler également L'enfance des Français d'Algérie avant 1962, ce sont des textes inédits recueillis par Leïla Sebar aux éditions Bleu Autour dans la collection D'un lieu l'autre. Carnet nomade, Claire Levasseur à la technique et au mixage, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellous, retrouvons-nous samedi prochain pour un nouveau carnet autour de Pierre Bonnard, vers l'Arcadie. Vous pouvez podcaster ou réécouter ce carnet sur le site de France Culture.
Très belle soirée à tous et très bon week-end à tous. Dans quelques instants, retrouvez le rendez-vous du samedi soir sur France Culture, Samedi Noir.